recherche à l'origine de cet exposé est basée sur des textes publiés sous la règle 4 ou 2. Mes sources principales sont les suivantes, donc des textes satiriques et des comédies dans un franco-russe particulier qui parodie la façon dont les amateurs des modes s'expriment, les satires étaient l'expression orale des coquettes ainsi que les fruits de leur production écrite, et des textes, des traductions pardon, d'annonces des modes tirées des journaux français et apparues dans la presse russe. Une question se pose, comment les textes destinés à enseigner les modes confrontent-ils le français et le russe? Dans un premier temps, je vais éclairer quelques termes principaux. Dans la partie centrale, je vais aborder les différentes pratiques qui relient le français et le russe. Elles se diversifient en fonction du public et sont pratiquées sur les différents niveaux de la société. Et par la suite, je vais vous parler des conséquences de cette cacophonie et montrer quelques cas particulièrement intéressants. Alors, la coquette, qui est la vedette de cette communication. Dans un premier temps, la forme « kakieta » est employée, le calque du mot français, ensuite devenu « kakietka ». Le suffixe « ka » ajouté signale la forme diminutive et péjorative pour les mots russes. Dans les études, la coquette est souvent vue comme l'homologue féminin du petit maître, remplacé plus tard par « shovel ». Or, ce n'est pas tout à fait correct, car le trait signifiant du petit maître est tout justement sa féminité, ce qu'on ne peut pas en aucun cas rapprocher à une femme. Son vice suprême à elle est un autre, elle est une mauvaise femme, une mauvaise mère pour ses enfants. Mais les personnages en ont fait beaucoup des choses en commun, tous les deux sont superficiels, prétentieux, extrêmement préoccupés par leur apparence, en général, et leurs vêtements et leur coiffure en particulier. Pourquoi ? On peut citer un grand nombre de témoignages invoquant la même raison. Être à la mode est un chemin le plus court et le plus sûr pour gagner l'empathie et susciter l'admiration envers sa personne. En résumé, pour être aimé. En tant que ville d'amour de la mode, Paris, par Sion, ses gens, elle est le symbole de tout ce qui est élégant, exquis, joyeux. Et c'est là où elle rêve de se retrouver, mais en attendant, il se contemple par les imitations dans le domaine de la mode et de la langue. La mode dont il s'agit a un statut tout à fait particulier. Ceci dit, pour la période étudiée, on repère trois significations coexistantes. Un, on danse pour les habits et les coiffures qui guident les élégants dans leur choix. Deux, une manière dominante de se divertir, de passer le temps, qui inclut la lecture, les sujets de conversation, les émotions. 3. La mode est une jeune dame, coquette elle-même. Elle est une divinité, une déesse à qui on sert et apporte des offrandes. Elle voyage, elle est capricieuse et changeante. En étant personnifiée, la mode exerce un langage pour gouverner ses sujets. Elle ordonne, elle gracie, elle mène une correspondance. La langue, composée des paroles, complète la liste d'autres langages qu'elle possède pour les besoins de séduction. Ce sont les langues des signes et des symboles. Langue des mouches, des ventailles, des fleurs, langue des dominations, des pièces, des garde-robes. Alors, à quoi ressemblait la langue avec laquelle on a parlé des modes à l'issue des années 60? On peut se rappeler que c'est un demi-siècle auparavant, sous la pression de Pierre le Grand, que la noblesse russe adopte un costume européen en se servant de modèles tantôt allemands, tantôt français. De cette époque jusqu'à 1775, Roba présente le modèle principal d'habit de la cour. Voici un autre modèle. Mais dans le dernier quart du siècle, on ne le verra plus en tant qu'habit de cérémonie, suite à la réforme du costume de la cour de Catherine II qui impose un habit russe. Désormais, le mot « roba » change de sens et dès les années 80, on l'emploie pour désigner non pas un modèle, mais en tant que calque pour dire justement « platier ». Roba était un vêtement des grandes occasions, tandis qu'on portait « robron », ça vient du « robe ronde », donc « robron », lorsque des journées des fêtes ordinaires, comme journal de la cour, comme il faut lire c'est le même journal, nous le rebelle. Donc, robe ronde illustre trois cas typiques d'interprétation des mots français. La forme la plus ancienne imite la prononciation. La forme de l'année 90 fournit un exemple de phénomène Akne. Vous voyez, Rabon, qui est néanmoins, enfin, qui a eu des connotations neutres ou positives, comme les linguistes le montrent. Toutes les variantes réunies pour le mot Rabon engendrent polyvariantness, qui est aussi typique, et voilà, qui est propre au vocabulaire français assimilé par la langue russe. Dans les années 60, Rabon occupe une place du choix dans la garde-robe féminine. Dans le document daté 1768, qui représente l'énumération de la dot des Varvara Chernitsiva, on en trouve une quantité de ventes de. Je vous montre quelques extraits intéressants à l'égard des mots français mutés en mots russes. Ils ne sont pas toujours faciles à déchiffrer. Bon, j'ai essayé. Chaque nom vous dire quelque chose, bon, je peux expliquer après. Les textes de ce genre sont similaires aux inventaires et pour cette raison n'utilisent pas la grammaire, à savoir Dalice Spears, qui présume que l'influence française se propage surtout dans le syntaxe, évidemment en même temps qu'elle se manifeste par les calques lexicaux et sémantiques. Dans la dimension comique, le fait d'évoquer le sujet de la mode implique un langage approprié qui intègre à différents niveaux des éléments français. Dans la pièce Brigadier de Fonvisine, les deux personnages les plus à la mode échangent les propos que voici. Alors là, dans ce dialogue que je vous laisse lire, deux détails sont à souligner. Première, une métaphore qui met la position le dehors et le dedans d'une tête. Une coiffure surchargée, travaillée et un esprit pauvre, une éducation négligée. Voici une liste d'apparitions de ce même motif repéré dans d'autres textes satiriques. Deuxième, c'est l'exclamation « Ah !» est un marqueur de femmes coquettes. Par exemple, vers la fin du siècle en France, il existe un petit magazine portant pour titre « Ah, que c'est drôle !» L'exemple suivant est tiré du journal Jevaki. C'est en russe. C'est une lettre fausse, bien sûr, d'une coquette qui, dans les premières lignes, se prend pour une critique théâtrale, c'est une forme caractéristique. Ensuite, elle parle de son histoire de fille provinciale et de son arrivée à la capitale, reçoit la formation pour devenir une personne à la mode. Elle fait part de sa vie privée dans ce lettre. Grave problème pour donc son mari est démesurément amoureux d'elle. Ce texte qui tourne en dérision les coquettes est caractéristique dans les lettres du même genre. On y trouve des structures grammaticales propres à la langue française, des mots français. On constate un style général assez bas. Une particularité de ce texte est sa prise jouante. La coquette réclame un dictionnaire, elle le reçoit. Un essai pour dictionnaire à la mode du langage coquette illustre à sa manière le phénomène de la prétexte. Il parodie et en même temps s'inscrit dans la pratique d'accompagner la publication d'un sujet quelconque dans le dictionnaire des mots étrangers, ce qui est très courant dans le premier tiers du XVIIIe siècle et encore répandu dans la presse dès les années 70-90. Le dictionnaire coquette des Jevaki, c'est fait une allusion à le livre à la mode de Marquise Caracciolli, là où la coquette souhaite qu'il soit imprimé avec des encres colorées. Et ce n'est pas par hasard, car cette création littéraire originale, le livre à la mode, se veut être une encyclopédie, se dit être universel pour les femmes de la société. Donc, le dictionnaire des Jevopicets ne comporte que 3 articles, mais grâce à fait qu'il respecte l'ordre alphabétique, l'article A y est présent. La notion de A est venue du français, et probablement, bon, c'est une idée, je suppose, du texte de Dreux du Razier, qui était déjà évoqué, dictionnaire de l'amour. Le texte de Jevaki présente la traduction des fausses œuvres épistolaires des éléments. Un autre exemple se trouve sur les pages 7 ou 8, vous le voyez à gauche. Et tout comme la précédente jeune dame, son auteur ignore les règles de grammaire, de style, se montre superficielle dans ce propos et impétueuse dans les jugements, incompétente quant aux réflexions sur la poésie. Cela permet à l'auteur de deviner que c'est la coquette qu'il écrit. Elle n'emploie pas spécialement souvent des mots français. Et ainsi, fait penser que la langue d'une élégante n'est pas toujours liée avec les expressions ou la syntaxe à la française. Et c'est le cas non plus pour Sakai Siachna, qui publie Agenda de ma cuisine. Les publications qui donnent la parole aux coquettes sont manifestement décidées à les éduquer, à leur apprendre la bonne langue, des bonnes manières et presque à faire naître un bel esprit. Ceci dit, le discours des coquettes, qui donne un exemple sans doute négatif, est encadré par un avis pédagogique de l'auteur. Une dizaine d'années après la première vogue des journaux satiriques, l'objectif d'instruire le public à la mode se manifeste sous une forme de publication positive, qui donne un modèle à suivre pour aborder élégamment le sujet de la mode dans la vie courante. Il s'agit des premières publications en langue russe dédiées aux descriptions de nouveautés dans le domaine de la mode. Quelle langue ces textes imposent-ils pour les descriptions des parures, des coiffures, des habits et des loisirs? Le français ou bien le russe? En fait, les deux en même temps. Tout d'abord, il faut comprendre que plusieurs éditions françaises consacrées à la mode, y compris des périodiques, sont très rapidement disponibles aux lecteurs et lectrices concernés des francophones russes. La multitude des librairies et la diversité des formes d'accès, comme salle de lecture, prêt à domicile, envoi postaux et encore des catalogues, surtout dans la fin du siècle, facilite l'accès à l'assortiment des librairies étrangères. Que trouve-t-on, au juste terme, dans cet assortiment? Donc, les éditions les plus importantes que j'aimerais vous indiquer sont en jaune, et là, sont des éditions que je reverrai dans les catalogues des librairies étrangères en Russie. Donc, ceci démontre que le lecteur francophone russe a accès aux publications fraîches, et sincères pour choisir leur apparence et comportement et savoir en parler au bout du jour parisienne. À leur tour, les voyages en France enrichissent le vocabulaire galant. La langue de la mode, depuis sa source la plus pure, attend les femmes russes issues de la plus haute noblesse. Il s'agit de la clientèle de Rose Bertin, la ministre de la mode de la reine de France Marie-Antoinette. On dispose des preuves d'une cinquantaine de commandes russes pendant 18 ans, dès 1774 jusqu'à 92, soit plus de deux fois par an en moyenne. Voici ce qui est important au sujet de la langue. Les clients reçoivent à la fin de chaque année en mémoire. Ils décomptent méticuleusement tous les achats récents non acquittés. Le moindre ruban, ne plus m'écharpe, sans parler des noms des tissus, des couleurs, des façons d'habits, y est compté. Donc, la lecture en français et les achats en France forment le langage qui est à la mode et qui est propre au public appartenant à la haute société russe. Dès les années 80, les admirateurs de la mode de tous les pays d'Europe bénéficient des éditions périodiques sur les modes dans leur langue natale. La première expérience dans ce domaine se conclut presque toujours par une traduction, pouvant après se développer en journal original et indépendant. Le cabinet de mode français est toujours à l'origine de ses créations nationales, en Italie, en Hollande, dans les États allemands, en Angleterre. Voici la Russie qui prend sa place dans le système de diffusion de textes de cabinet de mode. La périodique intitulée « Lekar Svatsko qui zavod » accueille sur ces pages quatre articles portant sur les modes du jour. D'une manière générale, le traducteur vise non seulement les modes parisiennes, mais aussi le goût particulier qui règne à Londres et à Berlin. De quelles sources traduit-il? Les publications de Lekar Svatsko qui zavod ont pour source journal des Luxus und der Moden allemand, qui lui est fort inspiré par le français cabinet des modes. Le traducteur russe travaille avec le numéro de janvier, février, mars et juillet particulièrement et pioche dans toutes les rubriques du mensuel allemand pour ses lecteurs prennent connaissance avec des divers faits, s'amusent et s'enrichissent. Donc, tout naturellement, l'apprentissage se passe au niveau du vocabulaire puisque les mots inconnus portent les noms inhabituels. Je voudrais faire une petite remarque pour souligner que connaître le nom de tel ou tel objet de l'article est une condition incontournable si on veut suivre la mode. parce que souvent une pièce de vêtement change peu dans sa forme, mais son nouveau nom fait la nouvelle mode. Alors, le traducteur ou traductrice russe se confronte au texte en allemand qui, lui, garde les titres français pour nommer les habits, les coiffures. Il ou elle traduit vers le russe en accompagnant cependant les mots russes par son original entre parenthèses. Il y a quelques rares exceptions, que voici, pour lesquelles il laisse les noms français directement dans le texte en russe, probablement guidé par le style. 4 publications seulement, c'est bien peu pour prétendre reconstituer ses objectifs, mais le choix auquel l'auteur de ce texte reste fidèle, c'est lui de traduire. Le présente en tant que combattant pour la pureté de la langue russe, comme s'il invitait les lecteurs à remplacer un mot français répandu par un équivalent russe. Donc, 6 mois se sont écoulés. En 1787, Maskovski, Vienne, offre une vingtaine de publications sur les modes, toujours dans la rubrique Fête d'hiver. À partir du numéro 2, suite à la promesse donnée, le journal annonce des nouvelles modes parisiennes. Dans chaque avis, 2 ou 3 objets sont présentés, tantôt seulement indiqués, tantôt décrits. À part les habits et les coiffures, il porte par exemple sur les moyens de locomotion. Je cite. Лошадь, на которой должен ехать верхом, подвержена также моде в рассуждении своего убора. Sur un habit de deuil, ou encore sur la différence entre les lames françaises et anglaises, qui sont en concurrence dans la matière du goût. La notion du style n'existe pas à l'époque. Pour les publications, les publications ne sont pas réparties équitablement sur l'année, puisque la moitié de textes se trouve dans les 21 premiers numéros, tandis que l'autre moitié se trouve sa place dans les 84 numéros restants. Comme c'est souvent le cas pour les textes traduits, le fait des traductions se manifeste. On comprend que le traducteur rejoint en cours de route une séquence de textes déjà existants, qu'il compte dès le début parcourir de vite pour enfin rattraper les modes du moment présent ou s'en reprocher au maximum. Le célèbre journal de mode Cabinet des modes est à l'origine de tous les textes de cette série dans Maskovski et Vedomosti. Le quotidien officiel qui publie les annonces des modes n'est pas quelque chose du jamais vu. Le journal des Paris le fait déjà en 1767. Il ne le propose moins que 10 fois. Moins de 10 fois. Donc, les traducteurs adoptent des stratégies beaucoup plus variées, si sont possibles. D'après ces résultats, il choisit manifestement de traduire, tout en gardant le titre d'origine. Présenté ainsi, ce dernier devient une sorte de terme. Il me semble que dans cette démarche des traductions, il cherche tout d'abord à éclairer ce que signifie de façon juste le titre français. Par exemple, il dit « Au damier, на которых представлены шахматы различными цветами » et plusieurs autres. Le but de présenter et d'expliquer les avantages et les particularités des nouvelles modes est caractéristique pour le cabinet des modes, qui est à l'origine. Mais dans l'édition russe, se mêlent les tentatives d'expliquer et de se familiariser avec les mots, les faire connaître dans leurs différentes formes et états. On peut remarquer là qu'en fonction des objets en question, le traducteur est prédisposé à citer uniquement en titre français. C'est le cas quand il s'agit des chapeaux. En fait, on disait coiffure en envisageant tout en construction. Et d'après Michel Sapori, ce sont les coiffures qui représentent et incarnent les changements dans les modes plus que les robes. Des couleurs sont très souvent présentes dans les descriptions des modes. Et j'aimerais faire aussi une remarque pour expliquer que très souvent, les pièces des vêtements sont colorées pour obtenir un air plus moderne pour un moindre coût. Par conséquent, le métier de teinturier, krasivch en russe, est un des métiers importants qui assure la production dans le domaine de la mode. Au premier abord, les textes que l'on vient de décrire instruisent les lecteurs au sujet de la langue et favorisent l'utilisation du russe pour parler de mode. Mais en même temps, ils ne sont que sur le point d'élaborer des normes. Alors les traducteurs eux-mêmes hésitent entre la langue russe et la langue française, et dans le cas de ce dernier, hésitent entre l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique. Apparemment, les modes assidûment depuis ces publications, la coquette les applique à la lettre. Cette langue spécifique apprise depuis les journaux provoque les auteurs satiriques qui relancent la critique contre sa littérature. Ayant vu la multitude des solutions en matière de traduction, on comprend mieux la nature d'une caractéristique du langage des coquettes qu'on appelle le mélange. Il s'agit d'utiliser le vocabulaire des deux langues pour en composer deux phrases, pour en composer des phrases. Ce n'est pas le français qui est accusé en tant que langue étrangère, mais justement le mélimélo, le rassemblement hasardeux des éléments des deux systèmes. Donc on peut en donner des exemples, mais on en passe. Et je m'adresse à cette petite brochure. Dans ce journal, donc, vous pouvez voir que Mademoiselle qui écrit emploie maladroitement le russe, abuse le français et pratique l'écriture dite phonétique. La coquette écrit comme elle parle, son expression orale spontanée dicte le choix des mots français. Elle prononce le mot qui lui vient en esprit en premier, russe ou français. Alors pourquoi le mélange du russe et du français crée-t-elle un tel désordre, des telles tensions, jusqu'à devenir dangereux, selon les auteurs satiriques? Parce que les deux langues créent une opposition. Donc, premièrement, l'opposition des deux langues permet de bâtir l'opposition entre une culture noble et une autre traditionnelle. Il existe un texte curieux qui permet de voir comment les gens des souches distantes peuvent entendre des significations différentes dans les mêmes formes phonétiques. Donc là, c'est une lettre d'un noble dans son domaine, et vous pouvez comprendre que quels mots sont compris. Et deuxièmement, c'est une opposition du traditionnel et du moderne, comme dans l'œuvre La correspondance de la mode, là où je veux que la mode nouvellement arrivée au pouvoir n'accepte pas les parures russes populaires à ses services, et le fait qu'ils soient vieilles, pas convenables, inappropriées, s'exprime par les paroles à l'ancien. Donc je passe en conclusion. Et je voudrais suggérer d'autres approches qui inscrivent la notion de la mode propre à la culture russe dans d'autres paradigmes linguistiques que le français. Le fait que la mode de cette époque vienne de France est démontré plusieurs reprises, je n'en remets pas en question, mais j'invite à prendre en compte que la vogue se fait connaître dès les années 70 sous le nom des Langlomanies. Puis, donc, elle entraîne l'enrichissement du vocabulaire aussi des garde-robes par des anglicismes, comme par exemple Redingot, qui est Reading Coat, ou Train, devenu Train en français. Il se trouve aussi que la culture russe subit une influence allemande qui joue son rôle dans l'apprentissage des modes, puisque le journal allemand, le journal de Luxus und der Mode, sert d'intermédiaire, mais aussi dans les colonies linguistiques. Donc sur cette gravure, on voit des noms qui apparaissent plus d'un siècle plus tard dans le Lubok, dans l'image populaire russe. Sur l'image d'origine, les personnages se prononcent de la même manière que les coquettes russes du XVIIIe siècle. J'agrandis pour vous. C'est-à-dire dans la langue natale plus la langue française. Donc le mélange est un signe de vie à la mode, pas seulement en Russie, et bien avant le 18e siècle.